Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Merci beaucoup, Sixtine, pour ces chants merveilleux. Je me réjouis en toi. Nous l'avons chanté, là nous allons le faire. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur Jésus-Christ avec un cri de joie? Je me réjouis en toi. Je me réjouis en toi, Seigneur. Un cri de réjouissance, de victoire, de bénédiction, un cri de joie. Je me réjouis en toi. Tu es ma source de joie. Ta joie fait ma force. Je me réjouis en toi. Je danse devant toi, Seigneur. Je saute devant toi. Je tape les mains pour toi. Je lève la voix pour toi. En toi. Ma source de joie. Béni soit ton nom. On se réjouit en toi ce matin. Ta grandeur, tes bienfaits, ta bonté. Tes miséricordes, ton amour, ta présence, ta puissance, ton salut, le pardon des péchés. Béni soit le nom de Jésus, digne de louange et d'adoration. Hallelujah. On serre nos mains. On serre nos mains pour taper, faire un bruit de réjouissance. On serre de nos mains aussi pour lever, pour louer et adorer le Seigneur et juste se céder à sa présence. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains tous ensemble pour un instant? Juste louer et adorer le Seigneur. Seigneur, me soumets à toi. C'est un acte de soumission, lever les mains. Je me soumets à toi, Seigneur. Je donne tout à toi. Je ouvre mon cœur à toi. Quand on lève les mains, aucune défense. On ne couvre pas, on ne se cache pas. On se met devant le Seigneur. Seigneur, accomplis ta volonté. À toi seul, la gloire, l'honneur, la louange. Nous sommes réunis en ta présence. Tu es là, Seigneur, source de joie, de puissance, de transformation. On lève nos voix, nos mains pour te louer, t'adorer. Juste un instant d'adoration, de façon spontanée. On a chanté des chants écrit par d'autres personnes sur l'écran. Mais là, on veut juste chanter notre propre chant. Un chant nouveau, un chant spontané, une expression qui vient de nous-mêmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Notre propre appréciation. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ces moments. Merci pour la famille de Dieu. Merci pour l'Église. Merci que je ne suis pas tout seul sur la terre. Tu es présent. J'ai une grande famille. La famille de Dieu, l'Église, le corps de Christ. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta parole. Ton Saint-Esprit, toi seul la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir? Mercredi soir passé, comme Jocelyn avait annoncé, nous avons lancé le nouveau programme de formation, formation biblique, une formation qui est initiée par l'Institut biblique du Québec en partenariat avec Église Nouvelle Vie, qu'on appelle CEBA. Certificat en études bibliques appliquées avec au-delà de 140 personnes qui sont inscrites pour un apprentissage. Et c'est un programme de l'Institut biblique du Québec à l'Église locale et pour l'Église locale. Et c'est votre dernière chance. On a déjà un cours. Il y en a 9, mais c'est la dernière chance. Il y a quelques-uns. Il y en a certains qui se sont informés s'ils pouvaient encore s'inscrire. Il va y avoir une table en arrière. Dernière chance pour ceux qui veulent s'inscrire pour avoir ces cours de formation biblique les mercredis soirs. Et ça, c'était mis en place parce que c'était la vision, le désir du comité pastoral de l'Église Nouvelle Vie, de Pasteur Claude et toute l'équipe, de mettre une emphase en l'an 2005 sur la prière et la parole. La prière et la parole. Combien sont d'accord que ça, c'est un bon mélange? On ne peut pas se tromper avec la prière et la parole ensemble. Il y a quelqu'un qui a demandé, évangéliste D.L. Moody, qu'est-ce qui est plus important dans la vie chrétienne, la prière ou la parole? Il lui a répondu en demandant une question. Qu'est-ce qui est plus important pour un oiseau? Son aile gauche ou son aile droite? Ça prend les deux pour s'envoler dans les airs. Quand on a un sans l'autre, quand on a la prière qui néglige la parole, ou on a la parole qui néglige la prière, c'est comme diriger un bateau avec rien qu'une rame. On tourne en rond. On tourne en rond. Si on veut aller de l'avant, ça prend la prière et la parole. On peut aimer la prière, mais sans la parole, on ne sait pas à qui on prie. On ne sait pas comment prier. On peut aimer l'adoration, mais sans la parole, on ne sait pas qui on adore. On ne sait pas comment adorer ou pourquoi adorer. Ça prend les deux ensemble. On peut vouloir être conduit par l'Esprit, mais sans la parole, on ne sait pas quel esprit nous conduit. Pour bien prier, pour bien adorer, pour bien être conduit par le Saint-Esprit, ça prend la parole de Dieu, une connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça ce bref série de messages sur la parole de Dieu. Je vais le continuer ce matin, terminer ce soir. Bref série de messages que j'ai débuté il y a deux semaines au sujet de la parole, au sujet de la Bible, que j'appelle « Pourquoi la parole? » Et c'est pour complémenter la série de Pasteur Claude sur « Enseigne-nous comment prier. » Et ce matin, on va lancer dans un sujet par rapport à la parole. Et ce soir, on va le terminer avec qu'est-ce que j'appelle un mélange explosif. C'est comment que le Saint-Esprit, c'est une soirée de l'Esprit ce soir. Et ce soir, on veut prendre le temps de se baigner dans l'Esprit. On va prendre des moments de louange, d'adoration. On va prendre des moments à l'autel. On va prendre des moments pour laisser le Saint-Esprit travailler dans notre vie avec la prière. On va prier avec vous. On va prier pour vous. On va prier pour des besoins. Mais on va passer du temps dans la présence du Saint-Esprit pour laisser le Saint-Esprit prendre la parole de Dieu et transformer notre vie. Je vais expliquer comment que le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu, afin qu'on puisse devenir ce que Dieu désire qu'on devienne. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu ensemble, c'est un mélange explosif qui peut révolutionner notre vie. Notre verset principal pour ce bref série de messages, c'est Romains 12, 2. Quand l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12, 2. C'est sur l'écran, vous pouvez garder dans votre Bible. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tout le monde sait que l'homme ressent et agit selon ce qu'il pense. Alors, nous voulons changer nos sentiments et nos actions selon la parole de Dieu. Si on veut changer nos sentiments, si on veut changer nos actions, il faut changer la façon qu'on pense. Il faut changer notre intelligence. Et l'apôtre Paul était conscient de cela. Et pour changer la façon qu'on pense, il faut changer les choses qui influencent ou déterminent la façon qu'on pense. Les choses avec lesquelles on nourrit notre intelligence. Il y en a d'autres qui disent « Tu es ce que tu manges. » Moi, j'aime pas ces personnes-là. C'est un peu épeurant pour moi. Mais c'est peut-être vrai. « You are what you eat. » »« Tu es ce que tu manges. » Et selon l'apôtre Paul, selon nous, moi, Dieu, la meilleure nourriture, la meilleure influence est la parole de Dieu. Pour être transformé, il faut renouveler qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous notre intelligence, la façon qu'on pense. Et un des buts de ces messages, c'est de vous inspirer, comme j'ai dit la dernière fois, de vous plonger dans la parole de Dieu. Je vous invite à manger à la table de la parole de Dieu, à nourrir votre esprit, votre intelligence, vos pensées de la parole de Dieu, de retrouver Un de nos désirs, c'est que vous pouvez retrouver une fraîche passion pour la parole, un désir frais pour redécouvrir les mystères et merveilles de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai presque intitulé mon message « Plonge dans la parole » au lieu de « Pourquoi la parole ?» parce que c'est notre désir pour vous. C'est ce que je vous défie à faire, c'est de plonger dans la parole, de sauter dans la parole, de vous lancer dans la parole de Dieu. « Take the plunge », comme on dit en anglais, afin de laisser la parole de Dieu révolutionner votre vie. Il y a trois choses qui se passent chez nous quand on plonge dans la parole. On découvre, on discerne et on devient. La première chose quand on se lance dans la parole de Dieu, c'est qu'on découvre Dieu. Par la suite, on développe le discernement et dernièrement, on devient un disciple. Et la dernière fois, nous avons appris comment qu'on découvre Dieu dans sa parole. Et la découverte de Dieu est sans limite. La découverte de Dieu est inépuisable. C'est sans limite ce que nous pouvons apprendre et découvrir. La Bible est un livre inépuisable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sans limite ce qu'on peut découvrir au sujet de Dieu dans la parole de Dieu. On peut étudier et rechercher des années et découvrir encore d'autres choses. Le psaume 36, 7, comme on a dit la dernière fois, « Tes jugements, ta parole » sont comme, tes jugements sont comme le grand abîme. En anglais, on dit « the great deep ». C'est littéralement comme les lieux les plus profonds de la mer. Et comme la mer, il faut sauter dedans pour découvrir les merveilles qui sont sous la surface des Écritures. Et la plus grande richesse qu'on découvre, quand on se lance dans la parole de Dieu, la plus grande richesse qu'on découvre dans la parole, c'est Dieu. On découvre Dieu dans la parole de Dieu. Qui il est, ce qu'il pense, sa nature, son caractère. On découvre sa personne, sa fidélité, son amour, ses merveilles, sa majesté. Comme nous dit l'apôtre Paul, Romains 12, 2, on découvre tout ce qui est bon, agréable et parfait au sujet de notre Dieu. Et ça, ça nous fait du bien. Et comprenez, le but de ces messages, ce n'est pas de vous demander de croire la Bible. Moi, je le crois. Moi, je crois la Bible avec tout mon cœur. Je crois que la Bible est la vérité. Je crois la Bible avec chaque fibre de mon être. Mais il y a peut-être certaines personnes ici qui sont moins certaines. C'est la première fois peut-être que vous découvrez la Bible, vous entendez parler de la Bible, vous avez peut-être certains doutes, et c'est correct. Je vous demande même pas de croire la Bible. Moi, je le crois, et je crois qu'on est justifié de croire la Bible, mais le but primaire, ce n'est pas vous demander de croire la Bible, mais de vous inviter à découvrir la Bible. Vous inviter à vous lancer dans un voyage de lecture, d'étude, de découverte pour vous-même. Et moi, je suis convaincu que le plus que vous allez comprendre et étudier la Bible, le plus que vous allez venir à la même conclusion que moi, que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Et vous allez arriver à croire comme moi je le crois. Vous avez des doutes, vous êtes incertain, vous ne connaissez pas, lancez-vous dans une découverte de la parole de Dieu et vous allez découvrir quelque chose. Vous allez croire. Je ne suis pas là non plus pour défendre la Bible, je ne suis pas là pour défendre Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi pour le défendre. Ce n'est pas le but. Je ne suis pas là non plus pour vous indoctriner, mais plutôt pour vous intriguer. Vous intriguez par la vie spirituelle, par Dieu, par la révélation biblique. Je vous invite à retrouver Dieu dans la Bible et j'ose croire que vous allez découvrir des choses et apprendre des choses qui vont vous émerveiller de nouveau et ultimement vous transformer. Il y a des grandes vérités dans la Bible, une richesse de bonnes choses, mais ils sont pour ceux qui veulent prendre l'effort de les comprendre. Donc on a dit la dernière fois quand on a lu l'explication de Jésus par rapport à ses histoires à Matthieu 13. Brièvement encore, Jésus a expliqué pourquoi il racontait des histoires, des paraboles. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en paraboles? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Quand on choisisse d'être insensible, de fermer nos oreilles, de fermer nos yeux, de négliger la parole de Dieu, on ne peut jamais découvrir les mystères et la richesse qui est dans la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y a des bonnes choses, des choses merveilleuses à découvrir dans ses enseignements et dans la parole, mais c'est pour ceux qui veulent découvrir. C'est pour ceux qui veulent faire l'effort de découvrir. Blaise Pascal a dit, La Bible offre assez de lumière pour la personne qui désire trouver la foi et assez de mystère pour la personne qui refuse. C'est à vous de choisir. Est-ce que je vais découvrir ces choses-là ou est-ce que je vais négliger les richesses de la parole de Dieu? Ceux qui veulent, c'est ce que Jésus disait, ceux qui veulent faire l'effort, qui veulent s'attacher à la parole, ceux qui veulent peuvent découvrir Dieu et la foi dans la Bible. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Et cette découverte, je suis convaincu que la découverte de la grandeur et les bénéfices de notre salut, de ce que Jésus a réellement accompli sur la croix, de qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ, de la nature et grandeur de Dieu, peut régler tellement d'affaires dans notre vie. Moi, je suis convaincu que beaucoup de nos douleurs, nos angoisses, nos soucis, nos malheurs, nos problèmes sont faute à une mauvaise compréhension ou une négligence de les richesses dans la parole de Dieu, de mal comprendre Dieu et ce qu'il a promis, qui il est et qui nous sommes en Jésus-Christ. Ne laissez jamais l'ennemi vous rend captif par des mensonges, des illusions, des limitations, la petitesse. Découvre dans la parole de Dieu qui vous êtes. Vous êtes un fils et une fille de Dieu très haut. C'est qui vous êtes. Découvre qui vous êtes dans la parole de Dieu. Ça vaut la peine de le relire encore. On l'a lu la dernière fois, mais de le relire encore. Deutéronome chapitre 1 qui parle du danger d'une fausse opinion de Dieu et d'un manque de connaissance de Dieu et ses intentions. Remarque ici, c'était la fausse idée au sujet de Dieu, un mensonge, comme un nuage au-dessus de leur tête. Deutéronome 1, vous murmurez dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous haït. Imagine, ils sont arrivés à penser, Dieu nous haït. C'est pour ça qu'on passe quelques moments difficiles. C'est parce que l'Éternel nous haït qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoriens et de nous détruire. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas de peur d'eux, tes ennemis. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu, malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Un exemple des idées que l'ennemi peut semer dans notre tête. On doute l'amour de Dieu. Dieu m'haït. Dieu n'est pas là pour moi. On doute les bonnes intentions de Dieu. Dieu nous a amenés ici pour nous induire dans un échec. Pour qu'on soit vaincu, pour qu'on puisse tomber. Il nous a préparés pour un échec. Des doutes qui disent, c'est trop bon pour être vrai. Les bénédictions vont terminer. Il y a une fin à la bonté de Dieu. Je ne mérite pas ce que j'ai. Tandis que la vérité est, Dieu dit, pourquoi que vous pensez ça? Pourquoi que vous pensez que j'ai une haine pour vous? Pourquoi que vous pensez que je vous emmène jusqu'à là pour que vous tombez et pas vous emmener jusqu'au bout? La réalité est que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes porté entre les bras de Dieu. La vérité est que Dieu vous a pas amené là afin que vous soyez un échec, afin d'enlever les bénédictions sur votre vie. Dieu vous a emmené là et Dieu a un avenir. Il y a un avenir et une espérance pour vous. Vous êtes créés pour le succès et non pour l'échec. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Dieu ne va pas enlever la bénédiction sur votre vie. Vous n'êtes pas créés pour être un échec. Vous êtes créés pour le succès. Jérémie 29, 11, ça nous dit, « Car je connais, Dieu parle, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est les intentions de Dieu pour vous. Vous avez un avenir. Vous avez de l'espérance. Ça, c'est les projets. Deux fois, Dieu parle de ses projets ici. Et les projets, projet, c'est le mot hébreu, mahashaba, qui est un terme artistique. Quand il parle de projet ici, il parle comme un artiste. Il dit, j'ai une création, j'ai la beauté. C'est comme un plan, un dessin, une toile, une sculpture, un portrait. Ça parle de la beauté. Dieu dit, vous êtes ma création. J'ai un dessin pour votre vie. Je suis en train de sculpter ou peinturer quelque chose de bien et de belle, et ça va être toute beauté. Ne vous découragez pas. Mes plans pour vous, c'est que vous soyez une création pour la gloire de Dieu, que vous soyez un succès, que vous soyez un témoin des possibilités avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça, c'est les intentions de Dieu pour vous. Ne doutez pas son amour. Ne doutez pas ses intentions. C'est comme si on ne peut pas croire que Dieu désire notre succès. On est tellement conscient de notre manquement que c'est plus facile vivre comme un échec que vivre avec le succès. On a misère des fois, c'est comme un nuage, je vois, au-dessus des chrétiens parfois. On a la misère à accepter qui je suis. Un homme et une femme de Dieu. Un fils, une fille de Dieu. Dieu est mon Père. Dieu m'aime. Dieu a sa main sur moi. Il y a des desseins, il y a des projets, des belles choses pour mon avenir. On est destiné à la réussite, au succès. Dieu peut faire des grandes choses avec nous. Il faut arrêter de vivre selon le dicton qui dit « Heureux celui qui n'attend rien, car il ne sera pas déçu. » Il faut qu'on attend quelque chose de la part de Dieu. Vous attendez rien, vous allez recevoir rien. Mais découvre dans la parole de Dieu toutes les choses que Dieu attend pour votre vie et attend que ça soit accompli. C'est tellement important à connaître les intentions de Dieu. Sinon, on est toujours méfiant, on s'éloigne car on est incertain. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu veut me bénir ou Dieu veut me frapper? L'inconnu nous fait peur. C'est comme un chien étranger qui vient vers nous en jappant. On ne sait pas s'il va nous lécher ou enlever le bras. C'est quoi ses intentions? On ne le connaît pas. C'est-tu pour mordre ou lécher? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est amical? Est-ce qu'il est correct? Parce que c'est l'inconnu. Comprenez que quand que Dieu s'approche de nous, il s'approche de nous, non pour enlever notre bras, mais pour nous bénir, pour faire quelque chose de bien avec nous, pour travailler dans notre vie afin qu'on soit la création de Dieu, toute beauté, quelque chose de bien artistique même. Soyez à l'aise, consolez-vous, soyez-vous en paix, Dieu a des bonnes intentions, approchez-vous de lui, laissez-le s'approcher de vous. Lamentation 3, 21 et 23, ça dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce que je vais méditer, je vais croire, je vais me rappeler. » Jérémie passe un moment très difficile, il voit ce qui se passe autour de lui, c'est un peu incréhensible et incompréhensible, il voit un peu la destruction, les résultats du péché, il passe un moment difficile, mais il dit, « Ce que je vais rappeler, ce que je vais repasser et méditer et répéter dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! » Est-ce que je peux entendre un grand amen à cela? C'est ce que je vais répéter. C'est ce que je vais repasser dans mon cœur. C'est ce que je vais croire. L'ennemi rentre pour dire, t'es bon rien. T'as pas les bénédictions de Dieu sur ta vie. Tu mérites rien. Dieu t'haït. Dieu a pas sa main sur toi parce que t'es pas assez spirituel, pas assez sanctifié, pas assez éduqué. Tu es négligé. Tu es l'exception à les promesses de Dieu. Il faut repasser quand on passe un moment de découragement ou un moment difficile. Il faut repasser ces mots que les miséricordes et les compassions du Seigneur se renouvellent à tous les jours. Il a sa main sur moi. Grande est sa fidélité. Il est fidèle au sang de Jésus. Il est fidèle à la croix. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses enfants. Grande est sa fidélité. C'est ce qu'il faut repasser, 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 reméditer, redire, répéter. J'ai une espérance, j'ai un avenir avec Dieu. C'est ce qu'on découvre dans la parole. L'onde de la parole pour être libéré d'une mauvaise estime de soi, d'une fausse culpabilité, des petites pensées de vous et de Dieu. Découvre sa grandeur, sa grâce extravagante. Sa puissance, votre destinée en Jésus-Christ, vos possibilités en Dieu. Laissez la Bible expliquer votre vie. Laissez la Bible vous donner une raison d'être. Laissez la Bible vous donner sens et direction de comprendre Dieu et la vie.
La vie est complexe parfois. La vie est mystérieuse des fois. On ne comprend pas toute la vie, puis la raison d'être, puis le passé, puis l'avenir. Puis de comprendre la vie, la spiritualité, Dieu sans la Bible, c'est comme faire une casse-tête sans la boîte avec la photo. Comment je vais mettre tous ces morceaux-là ensemble? J'ai tous les morceaux de la casse-tête qui sont sur la table. Mais j'ai pas la boîte, j'ai pas la photo, je sais pas comment que ça va ensemble. J'ai l'impression que ça fait un ensemble. J'ai l'impression que tous ces morceaux-là devraient se connecter d'une façon ou une autre, mais j'ai pas de photo de produit final. J'ai pas de l'image finale. Comment et de quelle façon que les morceaux vont ensemble pour faire quelque chose de complet? Et des fois, notre vie, ça semble à ça. Oui ou non? Est-ce que je suis seul? Des fois, je regarde, je dis, ça, c'est ma vie. Les morceaux complets, tout ça. Où est le produit final? C'est quoi ma destinée? C'est quoi l'image finale? C'est quoi le but ultime? Comment que tous ces morceaux-là vont ensemble pour faire une création de beauté, pour faire quelque chose qui est bien? Tout cela est dans la parole de Dieu. Vous voulez savoir c'est quoi la photo de votre vie? Elle est trouvée dans la parole de Dieu. Vous voulez savoir c'est quoi l'image? Elle est trouvée dans la parole de Dieu. Vous voulez savoir c'est quoi la raison d'être de votre vie? C'est trouvé dans la parole de Dieu. Vous voulez avoir des questions, des réponses à vos questions complexes? Ils sont trouvés dans la parole de Dieu. Ici, je trouve qui je suis, pourquoi je suis là, qui est Dieu, c'est pourquoi que Dieu m'a créé et c'est quoi ma destinée ultime. Et ma destinée, c'est de passer l'éternité à l'image de la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Ça, c'est l'image. Ça, c'est la boîte. C'est là-dessus. Là, je sais comment que les morceaux vont ensemble. Je sais comment connecter les choses pour que je devienne quelqu'un et quelque chose pour la gloire de Dieu. La Bible est la photo qui nous donne l'image, direction. Ça nous donne ce qu'on appelle le discernement. Ce que nous avons besoin dans la vie complexe et mystérieuse, c'est le discernement. La première chose qui arrive chez nous quand on plonge dans la parole, c'est qu'on découvre Dieu. Mais la deuxième chose, c'est qu'on développe le discernement. On revient à Romains 12, 2. L'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez. Vous obtenez le discernement. Vous développez le discernement. Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, afin que vous discerniez. On plonge dans la parole pour développer le discernement. La définition discernement, c'est de distinguer, c'est de découvrir par le jugement. Moi, je vous invite à plonger tellement et vous attacher tellement à la parole de Dieu et afin de cultiver un bon jugement, un discernement pour être capable de distinguer entre ce qui est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Plongez tellement dans la parole de Dieu que vous allez arriver à connaître tellement le caractère, la mission et la vérité de Dieu qu'on va discerner plus facilement des tactiques sataniques, diaboliques qui nous cherchent à trébucher ou tomber ou dévier du chemin. On connaît tellement la vérité que dès qu'il y a un mensonge, on sait que c'est un mensonge. On discerne. Non, ça, c'est pas la vérité. Il y a l'histoire qui est racontée du frappeur Ted Williams. Ted Williams est un des plus grands frappeurs dans l'histoire du baseball. Et c'est un homme qui exigeait que ses bâtons de baseball soient toujours parfaits et exactement pareils. C'est un homme qui pouvait même détecter si ses bâtons avaient pris même une once de poids par rapport à l'humidité. Puis une fois, l'histoire a raconté qu'il a retourné un paquet de bâtons chez le fournisseur Louisville Sluggers parce qu'il a détecté que les poignets n'étaient pas tout à fait exacts. C'est une vraie histoire. Louisville, ils ont fait des tests de précision et ont découvert un différentiel de 1/5 million d'un pouce. 1/5 thousandth of an inch, 1/5 million de 1 pouce de différence dans les poignets. Alors, Williams était tellement habitué à ses bâtons, le fil de ses bâtons, qu'il pouvait détecter même 1/5 million d'un pouce de différence. On appelle ça le discernement. Il savait quand c'était juste un peu croche, parce qu'il était tellement habitué au fil et le sentiment de ses bâtons, il peut détecter le moindre de variation. Et moi, je dis qu'on devrait se baigner tellement dans la vérité, dans la parole de Dieu. On connaît le fil de la parole de Dieu. On connaît le sentiment de la parole de Dieu. On sait c'est quoi la vérité. Tellement que dès qu'il y a même le moindre chose qui n'est pas correcte, le moindre de mensonge, le plus rapide qu'on va le détecter. On sait que c'est croche, on sait que ça vient de l'ennemi, on sait que c'est pas vrai parce qu'on est tellement baigné dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Que Dieu nous donne un tel discernement. Je sais que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas correct. Ça va être destructeur pour ma vie parce que je connais la vérité. Mais pour connaître le mensonge, il faut connaître la vérité. Il faut connaître le vrai pour être capable de détecter le faux. Vous êtes d'accord avec moi? Le discernement, on veut développer un discernement parce que le discernement se sert comme défense. Le discernement est une forme de défense. Ça devient défense pour nous. Une défense contre les tentations diaboliques, les séductions sataniques, la panoplie de mensonges tout autour qui crient pour notre attention. J'ai l'impression aujourd'hui que les tentations, elles sont comme les animateurs de tombola ou les jeux d'hasard au cirque ou à la ronde, que ça crie, vous savez, c'est quoi, ça crie, ici, ici, viens jouer ici. Viens jouer, vous allez gagner, monsieur. Viens, gagne un prix, essaie mon jeu. Vous êtes capable, viens. Puis quand on part dans les tombolas comme ça, il y a toujours deux, trois qui crient après toi. Viens, essaie. Viens ici, à gauche, à droite. Mets ton argent, tu veux gagner un prix, tu es capable. Si vous êtes comme moi, on dépense 50$ pour gagner un toutou qui vaut 50 cents. J'ai l'impression que c'est les tentations aujourd'hui, c'est comme ça. Ça crie de gauche à droite, de gauche à droite. Essaye, away. Il faut le discernement et la résistance. Il y a tellement de voix aujourd'hui, comment qu'on peut résister sans Dieu et sans sa parole? Comment qu'on peut savoir si une voix est destructive ou c'est une bonne voix ou la voix de Dieu, la voix de Satan ou la voix de la chair? Tellement de voix et de tentations qui attirent pour notre attention, pour nous détruire. Il faut connaître la vérité pour détecter et discerner les mauvaises voix et marcher dans la résistance et dans la sainteté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Bible nous enseigne que parfois le diable est comme un lion rugissant. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Un lion rugissant. Un lion rugissant, on appelle ça en anglais « in your face ». Quand un lion rugit, on l'entend. On sait qu'il est là. C'est évident, c'est flagrant, c'est épeurant même. C'est impossible à manquer un lion qui rugisse devant ta face. Et il y en a certaines images et certaines choses dans notre monde aujourd'hui qu'on peut dire, ben ça c'est le lion rugissant. C'est in your face, c'est direct, c'est flagrant. Les choses qu'on peut voir sur les vidéos de musique, sur le MTV, sur Much Music, le satanisme, il y a quelques films qui sortent, il y a la drogue, il y a le suicide, il y a les images des fois sur la rue Sainte-Catherine, on dit ça c'est le lion rugissant, ça donne le goût de reculer, d'éviter, c'est comme un lion sur le chemin, ça prend pas beaucoup de discernement pour voir sur ces images qui sont sur l'écran, ce sont des images diaboliques, sataniques, they're in your face, c'est le lion rugissant. Mais autrefois, la Bible nous enseigne que le diable est comme un ange de lumière. Parfois, un lion rugissant. C'est évident. On recule, on évite. Ça prend pas beaucoup de discernement. Mais 2 Corinthiens 11, 14 nous donne le deuxième face de l'ennemi. Il dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas un ange de lumière, il se déguise dans un ange de lumière. Ange de lumière, c'est pas comme un lion rugissant. C'est moins évident. C'est moins évident. Lion rugissant, ça, c'est des choses flagrantes. Puis si on est consacré, si on est sauvé, puis on aime Jésus, on va reculer de cela. Non, je veux pas de ça. Mais l'ange de lumière, ça, c'est subtil. Attirant. Ça pique notre attention, notre curiosité. C'est un petit peu plus innocent. Moins malin. On s'approche, c'est plus sournois. Il faut faire attention aux deux. Mais il faut vraiment faire attention au deuxième. Ça ne prend pas grand discernement pour le lion rugissant, mais ça prend un discernement pour détecter l'ange de lumière. qui nous attire pour nous détruire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est là que ça prend la vérité, parce que c'est séducteur. L'ange de lumière, ça prend le discernement, parce que c'est la voix qui nous fait justifier notre péché. C'est la foi, c'est la voix qui nous fait justifier notre péché sous la guise de mérite, occupation, pression. C'est la voix qui dit, Dieu va comprendre. Tu fais rien de mal à personne. Tout le monde le fait. La Bible n'est pas sérieuse face à ce sujet-là. Ça, c'était dans un autre temps. Les temps ont changé aujourd'hui. C'est la voix qui dit, ça me fait tellement du bien. L'ange de lumière, c'est la voix de la fausse paix. La voix de l'adultère. La jeune fille au bureau qui s'approche de l'homme marié. Puis il vous donne les trois choses que vous cherchez. J'appelle ça les trois C. Compréhension, conversation et complément. Tellement beau. Tellement gentil. Parle-moi de ta vie. Puis ça sème les mauvaises... L'ange de lumière, il sème des mauvaises choses au sujet de votre conjoint. Puis ça, il crée un attachement émotionnel qui conduit vers l'adultère. On l'a vu mille et une fois. L'ange de lumière, ces deux jeunes ensemble ne sont pas mariés encore, mais ça souffle un peu le sexe avant le mariage, sous le guide de la romance. C'est la bonne chose à faire, c'est le bon moment. On est en amour. On va se marier un jour. Ils vont me respecter demain. On ne peut pas se contrôler. On va avoir du sexe, mais on va se protéger. Comprenez quelque chose. Si votre seule crainte sont les maladies transmises sexuellement, vous manquez d'imagination. Les gens parlent tous de safe sex aujourd'hui. Hein? La sexualité, c'est pour tout le monde, le sexe, c'est pour tout le monde, puis en tout temps, puis mariage ou pas de mariage, c'est pas grave. Puis ils pensent que la seule chose, c'est qu'il faut se protéger, il faut avoir le sexe sécuritaire, il faut avoir le safe sex. Comprenez quelque chose, il n'existe pas de safe sex hors du mariage, parce qu'il n'y a aucune protection pour votre âme et pour votre esprit. Vous pouvez protéger votre corps, vous ne pouvez pas protéger votre âme. Alors, je le dis catégoriquement, je le déclare, le safe sex n'existe pas à part du mariage. C'est l'ange de lumière pour la destruction. Parce qu'on ne peut pas protéger notre âme. Pasteur Mark est contre le sexe. Non, je suis pour le sexe. Enlève le sexe, puis on ne serait pas là ce matin. Dieu est pour le sexe. Dieu a inventé la sexualité. La sexualité est quelque chose de merveilleuse, tellement merveilleuse et puissante qu'il est réservé pour un homme et une femme qui s'engagent à s'aimer et demeurer ensemble sous la bénédiction de Dieu pour le reste de leur jour. Là, c'est merveilleux. Mais à part du mariage, la Bible nous enseigne que ça peut détruire. Alors, n'écoute pas l'ange de lumière qui vous donne mille et une raisons pourquoi que c'est correct. La sexualité hors du mariage, la Bible enseigne catégoriquement, non, ce n'est pas safe, ça peut vous détruire. Est-ce que je peux entendre amen à cela? L'ange de lumière, on tolère des actions destructives, pornographie, alcoolisme, drogue, sous le guise qu'on ne peut pas s'arrêter, je ne peux pas m'aider, c'est mon arrière-plan, c'est un fer de caractère, j'ai un libido actif. L'ange de lumière. On va aller au casino. Un peu de divertissement, on est capable de se contrôler, un peu de gambling, un peu de jeu d'hasard. On va faire attention. J'ai déjà témoigné la destruction d'une vie d'un mariage avec cette logique-là. Il y a des endroits, convoitise la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Attention à la séduction. Ça commence avec le doute. Ça commence avec mal comprendre la parole de Dieu, mal comprendre la Bible. Justification, négligence. On fait des choses qu'on n'a jamais pensé qu'on était pour faire. On se juste l'ange de lumière, l'ange de lumière. Comme avec Satan et comme Satan a fait avec Adam et Ève, la première chose qu'il a faite, quand il voulait faire tomber Adam et Ève. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a semé le doute dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment contre ça? Il a semé le doute dans la parole de Dieu, le sérieux de l'avertissement. Comment qu'on peut savoir si Dieu a réellement dit quelque chose sans étudier et connaître et comprendre la parole de Dieu? Comme ça, quand l'ennemi vient pour semer le doute et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous pouvez dire, oui, Dieu a réellement dit, parce que c'est ici en noir et blanc. C'est la défense contre la tentation. Si Adam, comprenez quelque chose, si Adam pouvait être séduit malgré une situation parfaite, dans un jardin parfait, avec une constante communication avec Dieu, qui sommes-nous pour penser qu'on est à l'abri de danger, puis que nous, on n'a pas besoin de la parole de Dieu, puis nous, on ne serait jamais séduit? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La pancarte à l'extérieur d'Éden disait peut-être « Bienvenue au paradis! » Mais faites attention au paradis, parce qu'il y a sans doute des serpents qui sont là. Même dans une situation parfaite, même au paradis, une situation parfaite ne garantit pas une vie libre de la tentation. Parfois, c'est pire. Juste parce que ça va bien, vous dites, oh, tout est correct, comme ça, je peux négliger les prières, la parole. Faites attention au paradis, parce que le serpent est là, pas loin, pour vous tenter, pour vous faire tomber. Si ça peut arriver à Adam et Ève, ça peut arriver à nous, oui ou non? Les anges vivaient dans la présence littérale de la gloire de Dieu et un tiers ont été séduits par Lucifer. Qui sommes-nous? Pensons-nous que nous pouvons se tenir sans la parole de Dieu, sans veiller, sans prier, méditer sur la parole de Dieu, avec tellement de tentations tout autour, puis nous, on est à l'abri de cela. Fais attention, l'ange de lumière reçoit une défense par le discernement que la parole de Dieu nous donne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas sous-estimer le séducteur, David, Ananias, Saphira, Salomon, Samson, et la liste continue dans la parole de Dieu. Des gens que l'ennemi a séduits, l'ange de lumière. Quand on se laisse être séduit par Satan, il y a toujours un grand prix à payer. Il faut toujours payer la facture, il y a toujours. Parfois, c'est notre vie même. Satan a essayé la même chose avec Jésus. Quel front, quelle audace! Il essaie les mêmes tactiques pour faire tomber Jésus. Il a tenté Jésus, on le voit ici en Matthieu chapitre 4, versets 5 et 6. Le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et c'est Satan qui parle, car il est écrit, Satan cite la parole. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te poteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle audace, quelle nerf! Que Satan sert de la parole pour séduire la parole. Il sert de la Bible pour séduire le Fils de Dieu. Jésus est la parole et Satan sert de la parole contre la parole. Et si Satan a servi de la parole pour séduire Jésus, pourquoi qu'il ne le fera pas contre nous? Un peu de connaissance est une chose dangereuse. Et l'ennemi, des fois, va prendre les contextes de la parole de Dieu, puis va le tordre, puis va le mélanger pour qu'on justifie notre péché, pour nous donner une fausse paix, pour nous réduire en erreur vers la destruction. Il faut connaître votre Bible bien et profonde et comme il faut et non rien qu'un peu. Comme ça, quand Satan vient et dit, tu peux vivre avec ton péché parce que tu es sauvé par la grâce et non les œuvres. Toi, tu peux revenir et dire, oui, mais la Bible dit aussi que sans la sainteté, personne ne verra Dieu et je suis plus que vainqueur par celui qui vit en moi. C'est ce que Jésus a dit pour être capable de répondre comme Jésus en Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan a servi la parole hors du contexte pour essayer de le pervertir et tenter même le Fils de Dieu. Et parfois, Satan vient à nous avec la parole de Dieu pour justifier nos actions et notre péché et notre négligence. Mais nous, on est capable, si Satan dit, oui, mais il est écrit dans la Bible, nous, on est capable de répondre, il est aussi écrit dans la parole de Dieu et on se défend avec la parole. Est-ce que je peux entendre amen à cela? C'est pour ça qu'on prêche la parole, on étudie la parole, on lit la parole, on le croit. C'est notre défense. La parole nous aide à discerner les tactiques et mensonges du diable. La Bible nous aide à donner le discernement au sujet des priorités, le jugement pour distinguer ce qui est vraiment important et sérieux et ce qui n'est pas. La Bible nous enseigne qu'on devrait... La Bible nous démontre qu'est-ce qu'on devrait craindre. Puis quand on s'attache à la Bible, on craint ce qu'on devrait vraiment craindre et on ne craint pas ce qu'il ne faut pas la peine de craindre. C'est très important aujourd'hui. J'ai l'impression que les médias nous donnent une différente raison pour craindre à chaque jour. La crainte, on a des raisons pour craindre, pour être terrorisé. L'environnement, la maladie. Cette semaine, c'était la maladie. Hein? La maladie qui va avoir une épidémie à travers le monde. L'économie, la guerre, Al-Qaïda, Bin Laden, George Bush, toutes sortes de raisons pour craindre. L'avez-vous remarqué qu'il ne parle jamais de la personne qu'on devrait craindre comme il faut, et ça, c'est Dieu. Il parle de toutes sortes de craintes, jamais la crainte de Dieu. Il ne parle jamais. Si on imagine que le terreur et le terrorisme ou l'environnement ou l'économie sont nos plus grands problèmes et les choses à craindre. Notre problème n'est pas un manque de nerfs, notre problème c'est un manque d'imagination. Parce qu'on imagine pas qu'est-ce que ça va avoir l'air au jour du jugement. Ceux qui craignent Bin Laden, ceux qui craignent Al-Qaïda, ceux qui craignent le terreur ou l'économie, ils ont une imagination très limitée. Ils devraient craindre le grand trône blanc, comme décrit en Apocalypse, où ce que ça nous dit que c'est tellement terrifiant que même la terre et le ciel s'enfuient. C'est le seul endroit dans la Bible que ça nous dit ça, devant le grand trône blanc, le jugement final de Dieu, comme décrit en Apocalypse chapitre 20. On le lit ensemble. « Puis je vis un grand trône blanc. » C'est une révélation qui a du fin. « Et celui qui est assis dessus, et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer et le séjour des mers rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, feu jeté dans l'étang de feu. Si vous voulez craindre quelque chose, craignez le jugement final de Dieu. Si on pense que le terrorisme est notre plus grand problème, on manque d'imagination. Notre plus grand problème, c'est qu'on n'est pas en règle avec Dieu. Le plus grand problème ici au Canada, c'est le problème de péché. C'est un problème spirituel et non politique. Il y en a qui disent, « Pasteur Mark, pourquoi tu parles de la crainte de Dieu? Tu nous fais peur. » Sois plus comme Jésus, Pasteur Mark. OK. Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne ou dans l'enfer. » Et ça vient directement de Jésus. Même Jésus enseignait la bonne crainte. Pasteur Marc, on vient à l'église pour entendre la bonne nouvelle. Pas pour que tu nous fais peur. Comprenez que la bonne crainte est une bonne nouvelle. Savez-vous pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça limite nos craintes à une chose. La seule chose ou personne qu'il faut craindre, c'est Dieu. Et comprenez quelque chose. Si on craint Dieu, on n'a pas à craindre rien d'autre. Pour combien ça, c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je crains rien parce que je crains Dieu. C'est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Ça limite mes craintes. Peu importe ce que je lis dans les journaux, peu importe ce que je vois sur la télévision, peu importe ce que l'ennemi peut siffler dans mon oreille de mon avenir, peu importe l'économie, peu importe mon corps ou mon compte de banque, j'ai rien qu'une crainte dans ma vie, et c'est la crainte de Dieu. C'est une crainte qui me donne la vie. C'est une bonne nouvelle. La Bible nous enseigne la crainte, la bonne crainte, la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et la Bible bannit les craintes inutiles et destructives et cultive la crainte qui amène la vie et nous défend contre le péché et les actions qui vont ultimement nous détruire. La Bible nous enseigne la bonne crainte de Dieu qui va nous conduire vers la vie et la sagesse. John Bevere l'a prêché à la conférence afin que le ciel puisse s'ouvrir, que la crainte de Dieu nous conduit vers l'intimité avec Dieu. On combat le terrorisme avec toutes nos forces et toute la sagesse et la vertu que nous avons, mais le terrorisme, c'est non, pas notre plus grand problème, c'est Dieu. Quand on est en règle avec Dieu, on ne craint rien d'autre de l'ennemi. Isaïe chapitre 8, rapidement, termine dans quelques instants. Ainsi m'a parlé, il a dit catégoriquement à l'Éternel, une chose à craindre dans la vie, c'est Dieu. Isaïe chapitre 8, ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit et qui m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ceux qui craignent. Ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Ne craignez pas ce que les autres craignent, ni la maladie, le terreur, l'économie. Craignez Dieu! Nous voulons que le Canada, nous voulons que les États-Unis, nous voulons que les pays soient sécuritaires. Mais la Bible nous enseigne que seul Dieu peut nous donner la vraie sécurité. La sécurité est trouvée dans la crainte de Dieu. Le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. La seule vraie sécurité vient de la crainte de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Où est-ce que Dieu veille? Où est-ce que Dieu garde? Où est-ce que Dieu protège? Crains Dieu et t'as rien à craindre. C'est la bonne nouvelle, ça. Ce que je crains le plus, c'est nos lois contraires à Dieu. Les lois ici au Canada contraires à la parole de Dieu. Vous voulez savoir ce que je crains? Ce n'est pas les terreurs et le terrorisme, mais c'est des lois qui vont approuver un style de vie contraire à la parole de Dieu. Fléau d'homosexualité, fléau de pornographie, le fléau d'avortement. Ce qui me fait craindre, c'est les films profanes et indécents qui visent à pervertir les pensées de nos jeunes. Fléau de sensualité sur le net qui infite nos maisons, nos têtes et nos esprits. C'est ça ce que je crains. Parce que si on n'a pas une repentance, si on ne craint pas Dieu, si on ne revient pas à la sanctification, si on ne discerne pas le péché autour de nous, puis le péché dans notre propre vie, puis on se repent, puis on craint Dieu, si ce n'est pas Dieu qui garde notre pays, rien ne va garder notre pays. C'est ce que je crains. Il faut revenir à une crainte de Dieu. Sanctifie Dieu dans nos cœurs. Marcher dans l'intimité avec Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu, découvrir Dieu dans la parole de Dieu, craindre le péché, craindre les séductions de l'ennemi, parce qu'on est tellement en amour avec le Seigneur, ça va être notre plus grande défense, ça va être notre sécurité, ça va être notre sagesse, et ça va être notre vie. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Vous savez que dans l'histoire du fils prodigue, le seul temps que le fils, vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue, qui a quitté la maison de son père après la vivre dans le péché. Le seul temps que le fils est appelé intelligent, c'est quand il réalise et avoue qu'il se trouve dans le sou à cochon. Quand il se trouve dans la merde. Excuse-moi. Mais c'est le seul temps qu'il est appelé intelligent. Luc 15. Il aurait bien voulu, ça c'est le jeune homme, il aurait bien voulu se rassaisir des carouches qui mangeaient les porceaux. Mais personne ne lui en donnait. Entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, irai vers mon père. Et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Étant rentré en lui-même, en anglais, it says, « He came to his senses. » Littéralement, ça veut dire, il est revenu à son bon sens. Il est revenu à la logique. Il est revenu à l'intelligence. Le seul temps qu'il est appelé intelligent, c'est quand il voit la condition dans laquelle il est. Quand il voit qu'il est dans la boue. Quand il est réduit à manger la nourriture de cochon. Il dit, « Qu'est-ce que je fais ici? » La vraie intelligence reconnaît qu'on est entouré de la boue. On se nourrit de la cochonnerie. Il y a quelque chose de meilleur à la maison de mon père. Je vais repentir. Je vais laisser cette vie-là. La vraie intelligence revient à la maison de notre Père parce qu'on discerne qu'il y a quelque chose de meilleur que la vie dans laquelle je vis. Jésus peut me libérer. Je retourne chez mon Père. Je retourne vers Dieu. Je retourne à la maison. Il y a quelque chose de meilleur pour moi que cette vie-là. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Ça, c'est l'intelligence qui nous amène à la repentance. On prend la parole de Dieu. On s'attache à la parole de Dieu. On a le discernement des péchés chez nous, le péché dans la société. Et on revient au Seigneur. Puis on dit quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur pour moi. Quelque chose de meilleur pour ma vie. Je peux être libéré, transformé, sanctifié, renouvelé, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et la raison pourquoi on est intense quand on prêche des fois, la raison qu'on va transpirer un dimanche matin le mois de mars, des fois, la raison pourquoi on va lever la voix quand il y a la prédication, c'est parce qu'on le croit, on le croit, on le croit. Et parce qu'on voit la destruction du péché, parce qu'on témoigne l'ange de lumière dans la vie des gens qui détruit leur vie, détruit leur spiritualité, détruit leurs pensées, détruit leur mariage. Et pour ça, il y a une intensité. C'est pour ça qu'il y a une passion, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose de meilleur. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez comme vous êtes. Vous pouvez être libéré, changé, transformé par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Esprit. Vous pouvez avoir les péchés pardonnés. Il y a une place pour vous à la maison de votre Père où ce qu'il va vous donner une robe, il va avoir une fête, il va vous donner un anneau et il va vous accueillir et dire, viens mange à la table de Dieu puis arrête de manger avec les cochons parce qu'on le croit. C'est tout marqué dans la parole de Dieu. C'est un avertissement. Crains Dieu pour libérer la crainte. Crains Dieu. Reçois le discernement. Détachez-vous du péché. Attachez-vous au Seigneur. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Est-ce qu'on peut juste prendre un instant de prière, baisser nos têtes, un peu partout ici, dans le sanctuaire, si les musiciens peuvent juste jouer quelque chose doucement ici en arrière. Juste un moment de réflexion. On va le terminer ce soir. Dernière raison pourquoi on s'attache à la parole de Dieu, puis on va le mettre avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui travaille avec la parole de Dieu pour faire quelque chose. Qu'on découvre dans la Bible que c'est vrai, le Saint-Esprit, la parole, le Saint-Esprit, la parole. Donner autorité spirituelle, liberté, puissance. On va prier pour des besoins ce soir. On va se baigner dans la présence du Saint-Esprit. Mais ce matin, je ne peux pas prêcher un message comme ça, qui décrit le grand trône blanc, puis le jugement de la fin. La crainte de Dieu sans donner l'occasion. Les personnes ici qui n'ont jamais prié la prière, la repentance. Et peut-être que des personnes ici, vous n'avez jamais prié cette prière. Vous n'avez pas l'assurance de vos péchés qui sont pardonnés. Vous n'avez pas l'assurance de votre avenir. Vous n'êtes pas prêt pour l'éternité. Vous n'êtes pas prêt pour le dernier jour. Vous avez peut-être beaucoup de soucis, beaucoup de craintes dans votre vie. Vous n'avez pas la crainte de Dieu, qui est la crainte qui bannit tout le reste des craintes. Le Seigneur, quand on parle d'une crainte de Dieu, on parle d'une révérence. On parle d'un respect pour Dieu. On parle d'une appréciation pour qui il est, pour tout ce qu'il a fait. Moi, je veux juste donner l'occasion. C'est qu'il y a des personnes ici qui veulent dire, « Pasteur Mark, prie pour moi. Je veux avoir cette assurance, cette nouvelle naissance. Je vais être prêt. » Vous demandez juste de lever votre main où est-ce que vous êtes. Dis, « Pasteur Mark, prie pour moi. Inclus-moi dans ta prière. » Juste levez votre main. Gardez votre main levée. Il y a des mains ici à ma droite. Plusieurs mains. Une autre main ici dans le centre. Une autre main arrière. Des mains ici dans le centre. Ici à gauche, il y a plusieurs mains qui sont levées. Des mains levées un peu partout ici. Dizaines de mains ou plus même. Des personnes... Vous levez votre main et dites, oui, Pasteur Mark, prie pour moi. Prie pour moi, je vais avoir cette assurance-là. Prie pour moi. On va se lever tous ensemble comme une congrégation. Et Yves, tout le monde debout, tout le monde ensemble, comme une congrégation. Pendant que Yves nous conduit dans un chant louange d'adoration, on termine dans 5 minutes. Mais c'est tellement important ce moment ici, parce que c'est le moment de salut, c'est le moment de la nouvelle naissance. Et moi, pendant qu'on chante, j'aimerais inviter, si on peut juste tasser les escaliers ici en avant, moi, j'aimerais juste inviter tous ceux qui ont levé leurs mains de s'approcher ici en avant pendant qu'on chante, parce que j'aimerais prier pour vous. Je vois des mains qui sont élevées un peu partout dans le sanctuaire, mais je ne peux pas aller vers vous. J'aimerais vous demander de venir vers moi, parce que j'aimerais prier pour vous. Plusieurs personnes vous approchez, plusieurs personnes qui s'approchent. Venez un peu de partout, des personnes. Vous voulez avoir le péché pardonné, vous voulez prier, avoir l'assurance de votre avenir. Vous voulez bannir tous les autres craintes et craindre Dieu seulement. Plusieurs personnes, ça arrive de partout. partout. Premièrement, les personnes. Venez avec quelqu'un si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez besoin d'aide, la prière. Venez, vous avoir l'assurance. J'aimerais prier pour vous. Il y a une chose à craindre dans la vie, c'est Dieu. Crains Dieu, respecte Dieu, respecte sa parole. Marche en obéissance avec lui. Plusieurs personnes qui s'approchent ici. On veut que vous soyez prêts. On veut que vous soyez libérés de toute autre crainte, tout autre souci. Tellement de soucis, notre avenir, mon demain, le mois prochain, l'année prochaine. Est-ce que je suis prêt? Si jamais ma vie est enlevée, est-ce que je suis prêt? Quand on sait qu'on est prêt à faire face à Dieu, quand on sait que nous sommes libérés, les péchés sont pardonnés. Car tout ce monde-là, hein, pour savoir, pour avoir cette liberté, pour avoir cette grâce, pour avoir cette joie, il n'y a aucune joie plus grande que la joie de savoir qu'on est en règle avec Dieu. Que Dieu nous porte comme ses enfants entre ses bras. Que notre avenir est assuré parce qu'on s'attache à Jésus et à sa parole. Merci Seigneur pour tous et chacun des personnes qui sont ici en avant. Merci. Merci. Crains Dieu seulement. Crains Dieu seulement. Attachez-vous à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Je vais vous demander de faire quelque chose avec moi, ceux qui sont ici en avant. Je ne peux pas prier pour tous et chacun personnellement. Alors, je vais vous demander de répéter une prière après moi. Toute la congrégation va le répéter avec vous. Mais c'est important que vous le dites. Ce n'est pas moi qui prie pour vous, je prie avec vous. C'est juste pour vous aider à avoir les bonnes paroles pour prier. C'est tout. Et par la suite, il y a des conseillers. J'invite tous les conseillers d'avancer aussi. Les personnes ici à l'église qui vont prier avec vous, qui vont demander si vous avez besoin d'aide. Qui vont vous aider maintenant dans le voyage spirituel. Vous êtes partis dans un voyage spirituel ici ce matin. Plusieurs conseillers qui sont là. Demandez à quelqu'un qui a le badge ici, juste pour qui sont des personnes là pour vous. Mais avant ça, j'aimerais que vous répétiez une prière avec moi. OK? Juste répétez cette prière avec moi, tous ensemble, la congrégation. Cher Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci que tu m'acceptes comme je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Je confesse mes péchés devant toi. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Fais de moi un enfant de Dieu. Merci que Jésus est mort sur la croix pour moi, qu'il est ressuscité et que j'ai un avenir avec Dieu pour l'éternité. Amen. Cher Père Céleste, je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes et ces jeunes et plusieurs personnes ici. Qu'aujourd'hui, le salut a visité leur âme, Seigneur, leur vie, leur foyer. Je te rends grâce pour cette réponse. Tu connais le nom et l'adresse de chaque personne ici en avant. Je prie à partir d'aujourd'hui qu'ils soient préservés par ta grâce. Que ce soit le début, Seigneur, d'un voyage, un acheminement spirituel jusqu'à l'éternité. Que tu puisses les garder, les protéger, les bénir, qu'ils deviennent des hommes et des femmes de ta parole, Seigneur, qui vont marcher dans l'obéissance, dans la sanctification, qui vont devenir membres intégrales, impliqués ici, Seigneur, à l'Église, dans ton corps, avec la famille de Dieu. Je prie ta bénédiction sur eux financièrement, physiquement, spirituellement. On les réclame pour toi et pour ton royaume, au nom de Jésus-Christ. Et toute la congrégation dit Amen avec un cri de joie, une réjouissance, un party. On rend grâce au Seigneur pour ces hommes et ces femmes libérés, pardonnés, préparés et prêts pour le jour du jugement. Nos péchés sont enlevés. On est membre de l'Église. Le mystère de l'Évangile, c'est que dans un instant, on devient membre de la famille de Dieu. Dans un instant, on peut avoir nos péchés pardonnés. Dans un instant, on est inclus dans la famille de Dieu. On devient fils et fille de Dieu. C'est le mystère de l'Évangile parce que tout est accompli sur la croix par le Seigneur Jésus.